On se connaît peu encore, je connais quelques personnes, et c'est vrai que c'est la première fois de toute ma vie qu'on me fait un tel accueil en me recevant avec des balles. Hier soir, en me regardant devant la glace, j'ai dû prendre une douche, j'ai vu des impacts de balles, et je me suis dit « Waouh, quel accueil !» Non, c'était un jeu, on est bien d'accord. Mais on a fait un petit peu connaissance avec quelques-uns, j'ai pu discuter et c'est vraiment une joie pour moi de pouvoir connaître d'autres frères et sœurs, de voir comment le Seigneur a transformé vos vies. Et il y a une question mais fondamentale qui me préoccupe tous les jours et je voulais vous la poser ce matin. Alors, qui aime le clou de girofle? Ça c'est vraiment important. Est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui aiment vraiment le clou de girofle? Voilà. Qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça vous rappelle, le clou de girofle? Pourquoi vous l'aimez? Noël. Il y a Noël. Est-ce qu'il y en a d'autres? Hein, on voit cette orange piquée avec des bouts de clou de girofle. Ou dans les... À Dijon, on met ça dans le pain d'épices. Et pour certains, c'est vraiment l'odeur au coin de la cheminée. C'est les bougies à l'odeur de clou de girofle. C'est quelque chose de positif. À vrai dire, pour moi, c'est vraiment horrible. Qui n'aime pas le clou de girofle? Et qui peut me dire pourquoi? Ça vous rappelle quoi? C'est ça. Vous voyez, il y en a pour qui c'est une odeur très agréable, le clou de girofle. Ça rappelle la cheminée, toutes ces odeurs agréables de Noël. Et puis pour d'autres, c'est le dentiste. Et pour moi, c'est ça. Quand j'arrivais dans le cabinet de dentiste, pour moi, c'était la première odeur qui arrivait dans mes narines. Et puis, je me disais, mais quelle horreur le clou de girofle. Et quand je mange quelque chose avec du clou de girofle, j'y associe immédiatement le dentiste. Donc, si vous m'invitez chez vous, évitez de faire un gâteau avec du clou de girofle. En fait, pourquoi j'ai pris cette illustration? Tout simplement parce que être un témoin de Christ ressemble à un clou de girofle. On porte un seul parfum, mais on évoque deux odeurs radicalement différentes. C'est ce que nous allons voir maintenant dans la parole de Dieu, dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 2. On va lire ce texte, puis après on parlera un petit peu du contexte. Alors vous pouvez lire dans la même version que moi, directement projetée ici. 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 14 à 17. Je ne puis que remercier Dieu. Il nous associe toujours au cortège triomphal du Christ par notre union avec lui et il se sert de nous pour répandre en tout lieu comme un parfum la connaissance du Christ. Oui, nous sommes pour Dieu comme le parfum du Christ parmi ceux qui sont sur la voie du salut et parmi ceux qui sont sur la voie de la perdition. Pour les uns, c'est une odeur de mort qui les mène à la mort. Pour les autres, c'est une odeur de vie qui les conduit à la vie. Et qui donc est l'auteur d'une telle tâche? En tout cas, nous ne sommes pas comme tant d'autres qui accommodent la parole de Dieu pour en tirer profit. C'est avec des intentions pures, de la part de Dieu, dans l'union avec le Christ, que nous annonçons la parole. Alors là, je vais vous donner quelques éléments du contexte pour bien comprendre ce texte qui paraît un peu énigmatique à la première lecture. Odeur de vie pour les uns, odeur de mort pour les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, il faut revenir quelques versets auparavant. Juste avant ce cri de victoire, hein, parce que c'est un cri de victoire, il dit « Je ne puis que remercier Dieu ». Juste avant ce cri de victoire, Paul était très préoccupé, très perturbé, je dirais, par l'action de l'église de Corinthe. Lors de sa dernière course, alors que Paul tentait de les ramener sur le chemin de la vérité, et quand on connaît un petit peu le contexte des Corinthiens, il avait du travail. Donc au beau milieu d'un discours, alors que Paul leur enseignait la parole de Dieu, un homme s'est levé et il l'a attaqué de front devant toute l'assemblée. Et il a porté de vives accusations sur l'apôtre Paul en lui disant « Mais l'apôtre Paul, c'est un faible, c'est un faible. C'est un homme qui a une conduite beaucoup trop humaine. » Vous lirez le chapitre 10 et vous voyez que
toute l'épître, la deuxième épître aux Corinthiens, c'est une défense de son apôtre. Et donc, au travers de la défense, on sait, on arrive à connaître le type d'accusation qu'il a subi. On en voit une autre au chapitre 11, versets 5 et 6, où il est accusé d'avoir peu d'éloquence, de manquer d'éloquence, d'être un piètre orateur. Regardez ce qu'il dit. « J'estime cependant n'être en rien inférieur à ces super apôtres. Je ne suis peut-être pas un brillant orateur, mais je sais au moins de quoi je parle. » Voyez ce dont l'apôtre Paul était accusé ici. Il est aussi accusé au chapitre 12 d'être un apôtre de seconde classe, de ne pas avoir l'autorité des apôtres de Jérusalem. Mais effectivement, il ne faisait pas partie des 12, l'apôtre Paul. Il n'avait pas vécu avec Jésus pendant ses 3 ans de vie terrestre. Mais lui, il a vécu quelque chose d'extraordinaire à un autre moment, après. Il a eu des révélations particulières et il va défendre son apostolat. Au chapitre 12, on voit tous les critères qu'il va mettre en place pour dire voilà ce que c'est un vrai apôtre. Comment se manifeste mon apostolat ? En voilà la preuve. Il est aussi accusé au chapitre 11 d'avoir de mauvaises intentions, d'être un profiteur. Et donc, cet homme, devant tous les frères de l'assemblée, est en train de toucher le cœur de l'apôtre Paul. Il va remettre en cause ses motivations profondes, son identité, sa façon d'être. Je ne sais pas si vous avez déjà été accusé à tort de cette manière. Quelqu'un qui va remettre en cause vos motivations. Comme s'il allait sonder votre cœur et dire « Regardez ce qu'il fait, regardez ce qu'il dit, c'est faux, c'est un menteur, regardez, il profite de vous. » Peut-être que vous avez déjà vécu cette situation. Personnellement, ça m'est arrivé. Et il y a une réaction humaine qui est « c'est injuste, on joue le caliméro, c'est trop injuste. » Et puis, on s'apitoie sur soi. Et du coup, en s'apitoyant sur soi, et effectivement, il y a quelque chose d'injuste qu'on est en train de subir, mais si on se focalise sur nous-mêmes, sur notre petit nombril, eh bien, on finit dans la dépression. Et ça, c'est quelque chose de logique. Même l'apôtre Paul aurait pu faire une dépression. Même nous, en tant que croyants, on peut faire une dépression profonde parce qu'on subit des choses injustes. Eh bien, ce n'est pas ce qu'a fait l'apôtre Paul. Il aurait pu abandonner le bon combat. Et je pense que le diable a dû mettre le paquet à ce moment-là. Il a dû même se culpabiliser tout seul. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dû faire quelque chose qui ne va pas. Pourquoi ? Je suis accusé de cette manière-là. Eh bien, ce n'est pas comme ça qu'il réagit. Et vous savez ce qui va lui permettre de rebondir à l'apôtre Paul, c'est de regarder la vision glorieuse de son ministère. Au lieu de regarder aux circonstances, au lieu de regarder, oui, aux choses injustes qu'il est en train de subir, il va regarder à Christ et il va regarder à la victoire. Et c'est ça qui va transformer son regard sur les circonstances et qui va faire qu'il va considérer cette situation comme une gloire, comme une gloire. Et c'est ce qu'il dit ici, « Je ne puis que remercier Dieu alors qu'il est triste. » Regardez le chapitre 2, verset 4. « Tristé, mais ça ne nous touche pas. Mais quand c'est des gens qu'on aime, ça fait mal. Ça fait mal. » Et vous savez ce qu'il y a de pire dans cette situation ? Ce n'est pas l'accusation. C'est qu'il n'y en a pas un dans l'assemblée qui s'est levé pour dire « Tu as tort, tais-toi, c'est injuste !» Personne n'a bougé. C'est pour ça qu'il était le cœur attristé, profondément attristé. Personne n'a levé le petit doigt. Personne s'est levé pour contredire ce faux apôtre. Imaginez l'apôtre Paul. Il devait être dans ses petits souliers. Il devait être dans ses petits souliers. Je ne puis que remercier Dieu. En fait, l'apôtre Paul va changer son regard parce qu'il va voir qu'il est associé à la victoire que Christ a déjà accomplie. Nous sommes, et on peut l'appliquer à nous dans ce texte, tout le long du passage, l'apôtre Paul parle pour lui, mais il parle pour le chrétien en général. À chaque fois, il dit « nous sommes comme le parfum de Christ, nous sommes associés à sa victoire, à la victoire de Christ ». Et ici, il utilise un terme très technique, le mot « triomphe ». Personne ici n'a assisté encore à un triomphe. Peut-être lors de la Coupe du Monde. Ceux qui ont regardé la Coupe du Monde en Italie, quand la France a perdu en finale. Bon, il y a eu quelque chose qui s'est passé, vous vous rappelez, de un petit coup de boule. Mais il fallait observer les Italiens. C'était un petit peu l'ambiance d'un triomphe. Ici, il utilise un mot technique et à l'époque, ça voulait dire quelque chose. On célébrait un triomphe chez les Romains. C'était ici, c'est une image du film Gladiator. Si vous regardez dans les 5 premières minutes du film, vous avez ici l'image d'un triomphe. On voit César qui traverse toute, et il y a toute l'armée là qui est réunie sur la place, une immense place, mais il traversait toute la ville et c'était vraiment la lyre. C'était euphorique. Il y avait donc dans ce cortège d'énormes, de choses extraordinaires qui se passaient. Mais avant de célébrer un triomphe, il fallait qu'il y ait des choses qui soient établies. Par exemple, il fallait avoir réussi la conquête complète d'un pays, donc de ses ennemis, et avoir surtout produit la paix, la Pax Romana. Ça, c'était quelque chose d'important. Mais pas seulement. Il fallait aussi avoir étendu les frontières de l'Empire romain. Si c'était quelqu'un qui était venu envahir un pays qui appartenait déjà à Rome et que Rome ne faisait que reprendre, il n'y avait pas de triomphe. Il fallait conquérir de nouvelles terres. Obtenir une victoire absolue, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il n'y ait plus de rebelles. Plus de rebelles en face. Il y avait un quota de morts. Il fallait avoir tué au moins 5000 soldats. Vous imaginez ? Un quota. Sinon, tu n'avais pas de triomphe. Et il fallait avoir capturé le roi ennemi. Parce que ce n'était pas toujours le cas. Hein. On voit Ben Laden et tous ceux qu'on essaye d'attraper. Ils ont les moyens, donc ils s'en vont. Et on ne les attrape jamais. Et du coup, on ne peut pas célébrer un triomphe. Eh bien ici, vous avez une image de ce triomphe. Ça, c'est Vespasien et Titus. Donc, une image du triomphe à Rome. Alors là, c'est qu'une partie du cortège. En fait, c'était un immense cortège qui traversait toutes les places importantes de la ville. Et donc, au devant de ce cortège, vous imaginez une sorte de fanfare, il y avait tout le butin qu'on avait acquis. C'était un musée ambulant. Il y avait toutes les œuvres d'art, l'argent, les armes. Et donc, on avait récolté cela de l'ennemi. Et donc, on était fiers de les avoir acquis. Et donc on marchait, donc il y avait ceci qui était devant. Derrière, il y avait tous les sénateurs, les huiles, tous les personnages, les VIP. Hein. Ici, on est juste dans la zone VIP, vous imaginez. Tous les personnages qu'il y a derrière ce rideau étaient présents dans ce cortège, derrière donc ce butin. Et derrière eux, il y avait les prisonniers. Donc tout le monde ne mourait pas, il y avait un quota de 5000. Et il y avait ces prisonniers qui étaient dans le cortège, bien sûr désarmés, peut-être enchaînés, et ils étaient dans ce cortège. Derrière eux, il y avait donc le général des armées, tiré par 4 chevaux blancs, ornés de pourpre et d'or, et qui avait, pour symbole de victoire, sur la tête, une couronne de laurier. Et vous voyez sur cette image, on ne le voit pas très bien, mais tout le monde, même les anges qui sont dessinés, ont une couronne de laurier. Ça, c'est symbole de victoire dans les cérémonies païennes. Et donc derrière eux, il y avait les soldats, les légionnaires de l'armée romaine qui étaient fiers. Donc ça c'était la cérémonie. Vous pouvez imaginer l'ambiance. Levez-vous, on va imaginer cette ambiance. Levez-vous. Ça va vous réveiller un petit peu aussi. En fait, imaginez-vous, on a gagné. Vous faites partie des Français, non des Italiens, excusez-moi. Vous faites partie des Suisses. Alors non, des Italiens, vous avez gagné la Coupe du Monde. Là, on est à 3 secondes avant le coup de sifflet final. 3, 2, 1, et qu'est-ce qui se passe là? Tout le monde fait « Ouais !» On a gagné. Ouais. Bon, vous pouvez vous rasseoir, c'était juste pour vous donner une image de ce qui se passait. Et vous savez, dans ce cortège triomphal, il y avait plein de fleurs qu'on jetait à terre. Tout le monde les piétinait. Et il y avait aussi d'énormes marmites avec de l'encens qui brûlait. Donc il y avait une fumée, des sortes de fumigènes. Donc c'était vraiment l'ambiance qu'il y avait dans les rues en Italie le jour de la Coupe du Monde. Tout le monde a fait la fête. C'était la grande teuf, toute la nuit. Il y en a qui ont célébré la victoire des Italiens jusqu'au lendemain. Et donc ça, c'était quelque chose, une ambiance. Et donc je voulais vous remettre un petit peu dans cette ambiance quand il parle du triomphe. Donc, en fait, les chrétiens sont associés à cette victoire de Christ. Nous, on fait partie du cortège triomphal. D'accord ? Et on a le privilège de porter le maillot de l'équipe des vainqueurs. On n'en a pas toujours conscience. Parfois, on croit même qu'on a perdu. Il y a des douleurs, il y a des combats que l'on rencontre dans la vie chrétienne. Mais mes amis, quelle que soit la situation que tu rencontres, mon ami, je vais te tutoyer, si je peux me permettre. Quelle que soit la situation que tu rencontres, dis-toi une chose, tu portes déjà le maillot de l'équipe des vainqueurs. Parce qu'à la croix, Christ a déjà remporté la victoire. On n'est que sur le chemin aujourd'hui. Mais tu peux être fier. Tu peux être fier de porter le maillot de l'équipe des vainqueurs. C'est pas extraordinaire ça ? Tu te dis, waouh, j'ai déjà le maillot de l'équipe des vainqueurs, mais je suis encore dans le stade. On est encore dans le match. Il n'a pas été gagné ce match. Là, on est vraiment dans un contexte intéressant. Il y a l'arène, et vous êtes au milieu du stade, là, dans la pelouse verte, et vous êtes en train de combattre. Vous jouez encore ce match. Et nous, les enseignants, on est un peu les coachs. On vous donne les tactiques pour gagner ce match, pour avancer. Quand tu te blesses, quand les autres te blessent, et je sais que sur un terrain de foot, ça arrive souvent, pour l'avoir pratiqué plus de 30 ans, je peux vous dire qu'on se blesse relativement souvent. Pas toujours tout seul. On nous aide. On nous aide. Alors, je vais faire une petite application. Une petite application. Peut-être que tu traverses des moments difficiles, des situations injustes. Peut-être que tu as été critiqué injustement. Peut-être que tu as subi la jalousie de quelqu'un d'autre. Peut-être que on s'est moqué de toi au travail parce que tu as osé affirmer que tu aimais Jésus. Tu as subi des moqueries, des revers de main, l'humiliation. Peut-être que tu es dans le péché. Peut-être que tu vis une situation délicate. Séparation, le décès de quelqu'un, quelque chose de douloureux, une épreuve, une maladie, quelque chose qui dure, de récurrent. Ne regarde pas ton nombril. Souviens-toi, Jésus t'associe à sa victoire. Tu fais partie du cortège triomphal de Christ. Tu es dans ce cortège et tu marches dans ses rues. Et tu es avec Christ. Il a déjà remporté la victoire. C'est lui qui est tiré par les quatre chevaux blancs. Il a déjà remporté la victoire. Nous suivons notre général. Nous, on est derrière. C'est lui qui a remporté la victoire. N'est-ce pas extraordinaire ? Donc, le premier point, nous sommes associés à sa victoire. Deuxième point, nous sommes le parfum de Christ. Nous sommes le parfum de Christ. Et il se sert de nous pour répandre en tout lieu, comme un parfum, la connaissance de Christ. Dans sa grâce, Dieu nous utilise pour répandre son parfum. À ton avis, comment Dieu va-t-il utiliser l'Église, va-t-il t'utiliser, m'utiliser pour répandre la connaissance de Christ ? Est-ce au travers de notre bouche seulement ? Regardez ce que dit l'apôtre Paul, trois chapitres plus loin. 2 Corinthiens 5, 18 à 19. « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Mes amis, Dieu nous a donné deux choses ici. Et juste avant, il parle qu'on est une nouvelle création. Dieu nous a créés pour être des réconciliateurs. Et il va utiliser deux choses. le service de la réconciliation. Tout ce qui touche le service de l'autre, être serviteur. L'apôtre Paul, en 1 Corinthiens 9, dit qu'il s'est fait le serviteur de tous afin d'en gagner le plus grand nombre. Donc il nous a donné le service, nos petites mains, mes amis, notre capacité à faire du bien. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc nous sommes des ambassadeurs réconciliateurs. Nous, Dieu veut nous utiliser par ce que l'on fait et ce que l'on dit comme des réconciliateurs. Quand vous regardez les évangiles, souvent on constate que la semence, c'est la parole. Et à un moment donné, l'apôtre Paul, il dit, vous, les fils des hommes, vous êtes la semence. Notre vie est la semence. Tout participe, tout dans notre vie participe à répandre l'odeur du parfum de Christ. La connaissance de Christ, elle se fait par vos actes et par votre bouche. Et c'est indissociable. Indissociable. J'ai une belle-sœur qui travaille dans les cosmétiques de luxe. Et donc on nous offre des parfums de grand prix. Et j'ai remarqué une chose, parce que quand j'avais pas trop les moyens, j'achetais de l'eau de toilette pas trop chère. En général, on s'en met beaucoup le matin et au bout d'une heure, ça sent plus. Avec un parfum de grand prix, une eau de toilette de grand prix, on peut s'en mettre un peu le matin et tout au long de la journée, on sent jusqu'au soir. Vous avez remarqué ? Eh bien, cette odeur, elle vous poursuit. Depuis le matin, vous sortez de la maison, vous prenez le bus ou votre véhicule ou les transports en commun, vous sentez encore dans les transports en commun. Vous allez au bureau, vous sentez encore dans le bureau. Vous allez à la pause, vous sentez la pause café et puis vous continuez, vous sentez tout au long de la journée. Et donc cette odeur vous poursuit dans tous les lieux, en tout lieu, jusqu'au soir où vous rentrez chez vous. Vous avez porté cette bonne odeur grâce au parfum. Mais vous savez, ce n'est pas grâce à vous. C'est parce que c'est grâce à la qualité du parfum. Ce n'est pas grâce à nous. Avec un grand parfum, on sent bon tout au long de la journée. Le fait que vous sentiez en tout lieu, ça vient du parfum. Bien sûr, vous avez une responsabilité de le porter. Imaginez qu'un créateur de parfum fasse un super parfum et qu'il le laisse dans le flacon. À quoi ça lui sert ? Dieu nous a créés en Jésus-Christ. Hein, nous sommes de nouvelles créatures. C'est ce qu'il dit juste avant, au verset 17. Nous sommes de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il parle de notre identité ici. Il faut relire un petit peu le verset 16 pour voir qu'il n'est pas en train de parler peut-être du concret de chacun. Mais on est ça maintenant. Nous sommes des réconciliateurs. Nous sommes des ambassadeurs. Et nous sommes le parfum de Christ. Si tu restes dans la bouteille, dans le flacon, ça ne sert à rien. Et Dieu veut que l'on se répande, qu'on aille dans le monde, qu'on ne soit pas du monde, qu'on n'adopte pas les pensées du monde. Hein. C'est ce que tu as lu tout à l'heure dans Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas aux pensées du monde, d'accord, à la philosophie ambiante. Mais il faut être avec eux. C'est ce qu'on fait dans le café. On est au milieu des gens. On vit avec eux, mais on n'adopte pas leur philosophie et leur façon de penser. On les aime, où ils sont, mais on veut répandre le parfum de la bonne odeur. Bon, la mienne, elle sent un peu le café, hein. Mais on veut être chaque jour présent pour inhaler cette odeur de Christ, ce parfum. Troisième point, nous évoquons deux odeurs. Et c'est ici le mystère. 2 Corinthiens 2,15. Oui, nous sommes pour Dieu comme le parfum du Christ, parmi ceux qui sont sur la voie du salut et parmi ceux qui sont sur la voie de la perdition. Pour les uns, c'est une odeur de mort qui les mène à la mort. Pour les autres, c'est une odeur de vie qui les conduit à la vie. Et là, on ne comprend pas trop. Mais qu'est-ce qu'il veut dire ? C'est simple. Il faut reprendre l'image du cortège pour bien comprendre. Imaginez que vous soyez un des soldats romains, un légionnaire qui marche dans ce cortège. Pour vous, l'odeur de l'encens, ça évoque quoi ? La victoire ! On est d'accord ? Mais pour ceux qui sont prisonniers, ça évoque la mort. Parce qu'il faut savoir que dans le cortège, on allait encore fusiller, on allait encore tuer quelques soldats. Il fallait atteindre ce quota de 5000, et donc il y allait avoir des exécutions. Et pour ces soldats qui étaient prisonniers, c'était une odeur de mort. Donc le même parfum, le même encens, les mêmes pétales de roses, de fleurs qui étaient piétinés, cette odeur-là, elle avait une odeur radicalement différente. Et c'est ce que Jésus dit. Quand vous êtes au travail, quand vous annoncez l'évangile, pour celui qui l'accepte, c'est une odeur de vie. Pour celui qui le refuse, c'est la mort éternelle, séparé à jamais de Dieu. Donc la même odeur, ça signifie l'odeur du paradis ou l'odeur de l'enfer. Et pour moi, l'enfer, c'est la séparation d'avec Dieu. C'est presque ce que vous vivez déjà maintenant. Celui qui vit sans Christ, enfin pas vous, hein, dit celui qui vit sans Christ, séparé de Dieu, finalement, il ne faudra que vivre ça plus tard, mais en pire, il n'y aura plus Dieu qui va intervenir. Il n'y aura plus d'amour, il n'y aura que des égoïstes, il n'y aura que des gens qui ne suivent pas Dieu. Et la description que nous fait la Bible de l'enfer, c'est horrible. C'est horrible. Peut-être que vous vivez déjà dans cette situation. Peut-être que vous vivez déjà un enfer sur cette terre. Dieu veut vous donner une espérance. Et cette espérance, elle ne se trouve pas en moi, elle ne se trouve pas dans cette église, elle ne se trouve pas dans les personnes, elle se trouve dans une personne, la seule personne qui peut faire quelque chose, Jésus. Il a transformé ma vie, il a transformé la vie de la plupart d'entre vous. Et nous savons qu'il est vivant, que lui peut faire quelque chose. Et la responsabilité du chrétien, c'est de porter cette odeur, même si elle déplaît aux autres. Même si elle déplaît aux autres. Et c'est pas facile. Mais mon ami, tu as été créé pour ça. Tu as été créé pour porter l'odeur de la connaissance de Christ. Et si on le fait pas, on se prive d'une bénédiction. Si tu ne parles pas, si tu ne vis pas ce que Jésus te dit que tu es, tu te prives d'une bénédiction. Tu vas dire, waouh, c'est difficile de suivre la Bible. Il y a des commandements. Moi, je te dis, oublie le mot commandement. Ça te fait penser à un gendarme, à un policier. Non, Jésus est ton ami aujourd'hui. Tu es passé de l'autre côté, hein, tu fais partie de l'armée. Et le général, quand il conduit ses troupes, il ne les envoie pas au casse-pipe. D'accord ? Il sait exactement, quand il te donne un commandement, que c'est bon pour l'armée et que c'est bon pour le corps. D'accord, on va oublier l'image de l'armée parce que j'aimerais vous amener sur l'image de l'ami. Dans Jean 15, verset 15, il dit « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Et quand je réfléchis à cette notion d'amitié, hein, Jésus est un ami, il est père, il est créateur, il est tout puissant, mais il est aussi proche, il est transcendant et il est immanent. Il a ces deux aspects de sa personnalité. Très proche et même tellement au-dessus. Et Dieu veut être notre ami. Et si Dieu est notre ami, vous allez évoquer le parfum de Christ en permanence. Vous savez, quand je sors de l'école, j'amène mes enfants tous les matins à l'école. Et en général, c'est le stress hein, le matin, tous les parents viennent en courant pour amener leurs enfants, puis après ils s'en vont au travail. Et moi, dès que j'ai franchi le portail de l'école, je marche en direction de chez moi. Et puis, j'ai l'habitude de remettre ma journée au Seigneur à ce moment-là. Et puis, je lui parle ouvertement, comme je vous parlerai. Hein. Je dis, écoute Seigneur, là, j'ai plein de choses à faire ce matin. Mais vraiment, je te remets cette situation. Oh, puis, j'ai croisé ce parent tout à l'heure qui avait l'air en souci. Donne-moi une parole d'encouragement. Comment je peux l'orienter pour lui donner de l'espérance? Et vous voyez, je parle ouvertement. Et puis, j'étais en train de marcher et au bout de 30 secondes, j'entends un petit bruit derrière moi et j'avais un de mes voisins qui était à moins de 5 mètres. Et donc, il suivait la conversation. Ça peut paraître un peu gênant. Puis, je me suis dit, non, pourquoi tu es gêné? Là, ça vous est arrivé, peut-être au volant de votre voiture. Il est déconseillé de fermer les yeux en priant. Quand vous arrivez au feu, j'aime prier dans la voiture, c'est un lieu privilégié. Hein, je coupe le son, plus de musique, plus rien. Alors, c'est pas que c'est mauvais de le faire, hein, d'avoir de la musique, mais simplement, moi, j'aime ce moment-là. Et donc, je coupe le son et je prie. Et puis, quand j'arrive au feu, je suis en train de parler à Jésus. Et puis, il y a les gens qui nous regardent
bizarrement, de dire, mais à qui il parle, lui? Il est en train de parler à quelqu'un, il est un peu schizophrène. Et en fait, c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre, mais je m'aperçois qu'aujourd'hui, hein, il y a des téléphones avec le petit kit main libre. Et donc, ça devient courant de parler. On voit les gens dans la rue, vous baladez dans la rue, surtout à Genève, je suppose que beaucoup d'hommes d'affaires téléphonent et parlent comme ça. Hein, vous en avez déjà vu. Donc finalement, on peut le faire avec Jésus en permanence. Si Jésus est votre ami, il veut partager votre intimité. Quand vous traversez une situation injuste, avant d'aller le dire à un frère, mais dites-le lui. Seigneur, mais c'est horrible ce que je suis en train de vivre. Aide-moi, mais qu'est-ce que tu fais? Mais dites-lui, soyez vrai, soyez authentique. C'est ce que Jésus veut, et vous savez quoi? C'est ce que les gens autour de vous veulent voir. Des gens vrais, des gens authentiques. Vous savez, vous imaginez peut-être, parce que ça va être le point qui suit, qu'être le parfum de Christ, c'est quelque chose de difficile. Ben oui, c'est ce qu'il dit là. Hein. Mais qui est donc à l'auteur d'une telle tâche? Qui peut honnêtement sentir tout au long de sa journée le parfum de Christ? John, ça t'arrive de sentir le parfum de Christ tout au long d'une journée? Je ne demande pas de répondre devant tout le monde. Personnellement, c'est rare quand dans une journée, j'arrive à être le parfum de Christ. Je dois demander pardon régulièrement à Jésus et souvent aux autres. Mauvaise réaction. Moment difficile. Souvent parce que je ne me repose pas toujours en lui. Et vous savez quoi? Ça vous paraît impossible? Eh bien, tant mieux. Tant mieux. Parce que là, vous êtes en train de réaliser que ce n'est pas vous le parfum. Vous, vous n'êtes que le vase. Et un vase, c'est fragile. C'est ce qu'il dit ici, hein, au verset... Bon, notre capacité vient de Dieu. 2 Corinthiens 4, 7. Nous portons ce trésor, ce parfum, d'accord, dans des vases de terre, c'est-à-dire dans des récipients fragiles, afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Mes amis, c'est un choix de Dieu d'avoir choisi des gens imparfaits pour transmettre un message parfait. La perfection, elle ne vient pas de vous, je vous rassure. Mais justement, c'est dans notre faiblesse, dans vos imperfections, que Dieu va pouvoir se manifester. Vous savez, quand je travaillais dans l'industrie, il y a quelque chose qui me séparait radicalement des autres. J'étais en bureau d'études en tant qu'ingénieur et souvent il y avait des situations parfois conflictuelles et j'étais un des rares qui allait voir la secrétaire. Parce que souvent on l'envoyait balader parce qu'elle faisait des fautes ou des trucs comme ça, elle avait pas recopié comme on voulait. On donnait notre dossier et puis ben voilà, mais qu'est-ce que t'as fait? Et on était parfois dur avec elle. Eh bien j'étais le seul qui allait la voir en lui disant, écoute, je te demande vraiment pardon. Tu sais, là j'ai vraiment une attitude qui n'était pas juste envers toi. Et elle me regardait avec des yeux comme ça. Est-ce que j'étais parfait? Non. J'avais commis des erreurs, mais j'étais le seul qui allait la voir en lui demandant pardon. En ayant une parole de pardon, de vouloir être en paix avec elle. J'avais été dur. Et vous voyez, vous allez vous démarquer en tant que chrétien, non pas parce que vous êtes parfait, je vous rassure. Ceux qui vous entourent le savent que vous ne l'êtes pas. Peut-être que vous ne le savez pas encore. Mais vous êtes bien les seuls. Demandez à mon épouse. Elle va bien vous dire où sont mes défauts. Et je vous rassure, vos voisins, vos collègues de travail, votre époux, vos enfants savent exactement vos travers. Et s'ils veulent, ils ont juste appuyé sur un bouton pour vous faire sortir de vos gonds. C'est très facile à faire. Donc, partant du principe que nous ne sommes pas capables, eh bien Jésus va être cette capacité. Et ce que l'on voit dans le chapitre 3, toujours dans les Corinthiens, cela ne veut pas dire que nous puissions nous considérer par nous-mêmes à la hauteur d'une telle tâche. Au contraire, notre capacité vient de Dieu. C'est lui qui nous a rendus capables d'être les serviteurs d'une nouvelle alliance qui ne dépend pas de la loi avec ses commandements écrits, mais de l'Esprit. Car la loi avec ses commandements écrits inflige la mort. L'Esprit, lui, communique la vie. Si vous avez l'Esprit en vous, Jésus, vous n'êtes plus en guerre contre lui, c'est devenu votre ami. Du coup, quand vous lisez l'Écriture,
Quand vous la lisez, quand je lis un commandement, je me dis, ok, ça c'est un conseil d'ami. Et quand je réfléchis à la situation, quand je suis avec un ami, quand je l'appelle, que j'ai un moment difficile ou que je ne sais pas quoi faire dans une situation, j'appelle un ami que je sais fiable, loyal, et je lui pose la question, je dis, qu'est-ce que tu ferais à ma place dans telle situation? Eh bien, il me dit, bah, écoute, je ferais ça. Ça ne va pas toujours dans le sens que moi j'aurais souhaité. Hein. Écoute, moi je pense que, aplatis-toi, va demander pardon, c'est pas grave. Demande pardon, la grâce. Hein. Et puis parfois c'est non, tranche. Bref, il me donne un conseil. Dans une circonstance, il va être complètement différent que dans une autre, d'accord? Eh bien, la Bible, c'est ça. Il y a des centaines de textes qui, selon la circonstance, selon le contexte, on va nous dire de trancher ou de répandre l'amour. Eh bien, quand je prends l'Écriture, comme Jésus est mon ami, je prends ses commandements comme un conseil d'ami. Vous savez, quand mon ami me donne un conseil, je le suis. Pas vous? Parce que je sais que c'est bon pour moi. Si Jésus est ton ami, tu vas suivre ses commandements. Et c'est comme ça que tu deviendras son ami. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ce que je vous conseille, c'est un conseil d'ami. De toute façon, vous savez, l'Écriture, c'est marqué commandement, mais Dieu ne nous a jamais forcés à mettre en pratique ces choses-là. Personne, certainement pas Jésus. Il nous aime d'une telle manière qu'il nous donne le conseil, mais il nous laisse libre de l'appliquer parce qu'il veut qu'on le fasse avec le cœur et non pas sous la contrainte de la loi. Il faut que tu fasses ça. Non, je suis déjà en Christ. Je suis déjà réconcilié. Je suis déjà lavé. Je suis déjà purifié. Toutes ces choses sont déjà acquises. Je n'ai pas besoin de gagner quoi que ce soit. J'ai simplement besoin de me reposer sur sa grâce. Et donc, comme je sais que je suis adopté, comme je sais qu'il est mon ami, ben je vais suivre ses conseils naturellement, avec un cœur volontaire. C'est ce que nous demande Jésus. Donc, nous sommes capables de porter ce parfum. Il y a une chose que Dieu nous demande, mais cette image de « on doit toujours être prêt ». Toujours être prêt, c'est ce que dit l'apôtre Pierre. Mais dans votre cœur, consacrez le Christ comme Seigneur. Soyez toujours prêt à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et crainte. Une fois encore ici, c'est l'attitude du cœur qui est prépondérante. Il ne s'agit pas de cracher votre espérance à la figure de vos amis. Il s'agit de le faire avec douceur et avec crainte. Paisiblement. Tu sais, je voudrais te dire, j'étais comme toi avant. Tu sais, pour moi, Dieu, c'était un père fouettard. Il n'existait même pas. Pour moi, Jésus, c'était le 25 décembre dans le calendrier. C'est tout. Il ne représentait strictement rien. J'avais un grand-père communiste, des parents athées. Donc Jésus, pour moi, c'était rien. Et il a transformé ma vie. On n'est pas obligé de le dire avec arrogance. On peut très bien le dire avec douceur. Et s'ils ont vu votre cohérence entre ce que vous dites et ce que vous êtes, ils vont sentir ce parfum du Christ. J'accélère un peu parce que je vois que je ne suis plus dans le temps. On pourrait être tenté de diluer le parfum. Et c'est ce que font certains. On promet monts et merveilles. On promet la santé, la guérison physique. On promet la prospérité financière. On promet plein de choses. Mais mes amis, ça ne fait pas partie du message de l'Évangile, ça. Ils ont oublié tellement de textes. On pourrait être tenté de diluer le parfum. Et c'est ce que faisaient certains. Ils rajoutaient à l'Évangile. Hein, ce terme est utilisé, le mot frelaté, à des vendeurs qui étaient peu scrupuleux, qui rajoutaient de l'eau dans le vin. Comme ça, on peut en vendre plus. Mais ce n'est plus du vin de qualité. C'est de la piquette. Et du coup, Jésus nous dit non, ne dilue pas mon parfum, ne dilue pas mon message. L'apôtre Paul le prenait ça très au sérieux. Hein. Il disait, si quelqu'un, même nous, même un apôtre, même un ange, vous annonçait un message différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit. Vous imaginez ça? L'apôtre Paul dire, si je vous annonce autre chose que l'évangile de la grâce, du salut par la foi, non par les œuvres, que je sois maudit à jamais. Waouh ! que je sois anathème. C'est fort. Ne changeons pas le message. Adaptons la forme, jamais le fond. Jamais le fond. Intransigeant avec le fond. Et je sais que vous êtes dans une église où le message est clairement annoncé. Et ici, c'est un rappel. Ne diluez pas le message parce que c'est difficile de l'annoncer, de le vivre. Alors, j'aimerais conclure avec cette illustration. Vous savez ce que c'est un nez de parfum ? C'est un œnologue pour le parfum. C'est quelqu'un, un spécialiste, un scientifique du parfum. C'est quelqu'un qui va arriver à savoir ce qu'il faut rajouter dans le parfum. C'est très complexe, un parfum. Il y a plein de subtilités dedans et il y a des spécialistes. Hein. Comme dans un vin, il y a des œnologues. Et bien ici, on les appelle des nez de parfum. Et ils ont analysé deux parfums. Alors ça date un peu, mais c'est la vie de Christian Lacroix. Et j'ai bien aimé cette analyse de ce nez. Il dit la chose suivante. Comme son nom l'indique, C'est la vie est un cliché fait sur mesure pour le marché international. Agréable comme un concert de klaxon un jour de migraine. Original comme une annonce d'aéroport et discret comme un bris de vitrine. C'est la vie est une imposture. Un sans bon de gare vendu le prix d'un vrai parfum. Mes amis, j'espère que votre vie reflète la bonne odeur de Christ. Que vous n'êtes pas des sans-bons de gare, de pâles imitations. J'espère que vous êtes comme Kouros. Alors moi, je l'ai intitulé Christos. Regardez ce qu'il dit. Kouros, c'est l'équivalent olfactif d'un gong, dont le son n'a pas de hauteur car il couvre tout le spectre sonore. Une base ambre-cuir, à la fois sombre, suave et très poudreuse, dégage une aura qui irradie au loin une note propre, rappelant la peau et les cheveux. Cet équilibre précaire entre le spirituel, alors ça c'est moi qui ai rajouté, entre le spirituel et l'humain fonctionne parfaitement et fait de Christos le parfum homme le plus insolite des 20 dernières années. Un parfum unique et inimitable. Attention, sur un homme, ne pas forcer la dose. Mes amis, le parfum de Christ est unique et inimitable. Nous ne devons pas sentir un autre parfum. Nous ne devons pas répandre une imitation de parfum, mais le véritable parfum de Christ. C'est au travers de nous. Au travers de l'amour que nous avons les uns pour les autres dans l'Église, que les gens qui vous entourent sentiront sa présence. On prie ? Seigneur Jésus, tu es vraiment unique, inimitable. Et tu as choisi les chrétiens, un peuple imparfait, pour faire connaître une personne parfaite. Et Seigneur, tu veux nous utiliser dans notre faiblesse pour répandre le parfum de Christ. Aide-nous, s'il te plaît, à le faire du mieux possible. Nous ne voulons pas diluer ce parfum. Seigneur, tu nous avertis que c'est dangereux. Nous voulons vraiment refléter ce parfum de Christ. Aide-nous, Seigneur, lorsque nous sommes confrontés à des situations où nous ne voyons pas comment faire pour répandre ton parfum. Débloque ces situations. Aide-nous à refléter ce parfum de Christ. Lave-nous, purifie-nous lorsque nous péchons, parce que là, nous ne sentons pas bon. Nous voulons que tu puisses nous purifier, nous sanctifier, pour que nous puissions sentir bon à tout moment de la journée. Et Seigneur, lorsque je vis des moments difficiles, donne-moi le souvenir du triomphe. Donne-moi le souvenir que je fais partie du cortège triomphal de Christ. Quelle gloire, Seigneur! Même si c'est difficile, même si on me piétine parfois, eh bien, Seigneur, je fais partie de l'équipe des vainqueurs. Glorifie-toi au travers de nos souffrances, Seigneur. Aide-nous à lever la tête et arrêter de regarder notre nombril, de nous apitoyer sur nous-mêmes. Aide-nous à regarder vers toi, à regarder à la victoire que toi, tu as déjà acquise à la croix. Merci du fond du cœur pour tout ce que tu as déjà fait pour nous. Et je te prie tout cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.